Les conversations perchées, une proposition conjointe du merlan et de la grenouille, dont je vous rappelle peut-être en deux mots le dispositif. Il s'agit de réunir des artistes, des spectateurs, des acteurs de la vie sociale et culturelle des quartiers autour du théâtre du Merlan, puis aussi des enseignants et des chercheurs autour d'une question de société, et puis conversation perchée tout simplement parce qu'on ne souhaite pas vous imposer de devoir tenir un micro. Le micro vient à vous, posé sur une perche, laquelle perche maniée par Tony Regnault, perchman de cette émission. Aujourd'hui, en rebond à la programmation du Merlan, qui a accueilli successivement au cours de ces dernières semaines la compagnie Saliani Sédou et puis la compagnie Membros, dont on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui un des membres, mais aussi au travers du travail d'atelier réalisé avec les spectateurs et les voisins du théâtre, eh bien, je vous propose aujourd'hui d'échanger quelques idées autour des frontières, d'observer ces lignes de démarcation réelles ou imaginaires, visibles ou invisibles, qui parcourent nos villes, et puis comment elles sont génératrices parfois de frustration, de tension ou de violence. Alors autour de cette table, nous allons être quelques-uns, quelques-unes pour en parler. Et je vous propose tout simplement pour commencer un petit tour de table pour vous présenter.
Je suis Felipe Tajiba. Je travaille avec la danse déjà 10 ans.
Je travaille avec la danse depuis plus de 10 ans.
Et actuellement, je travaille no groupe avec la partie musicale.
Membros dans la partie musicale.
De oficinas.
Dans la partie d'officine.
Et de coordination pour la école de alunos pour la compagnie.
Et de la coordination de l'école avec les élèves. Je me présente Gilles Chibert. Je suis là pour faire l'interprète français-portugais.
Et on te remercie beaucoup.
Merci.
Alors, moi, c'est André Kuhlberg. Je suis philosophe de formation, j'ai été prof de philo pendant 15 ans, mais je travaille aussi, j'anime des ateliers dans les quartiers comme Malpassé.
Paulina Salminen, donc je suis vidéaste, plasticienne, et je travaille notamment avec le sujet des frontières.
Je suis Marie Samba, je suis là pour parler de frontières parce qu'on travaille sur la thématique des frontières avec l'atelier cinéma.
Anne-Marie Tagawa, je suis éducatrice en prévention spécialisée sur le secteur ici du Grand Saint-Barthélemy. Et on a conduit un travail avec un groupe de préadolescents sur les notions de frontières avec Paulina et avec les plus grands dans un atelier cinéma dont fait partie Samba, aussi sur la thématique des frontières.
Anaïs Lemaignan, je dirige le service des relations au public au Théâtre du Merlan. Et c'est un petit peu à ce titre qu'on a commencé à travailler sur cette idée de frontières en partant d'une idée un peu toute simple qu'on avait envie de creuser, nous, équipe d'un théâtre, qui était de se dire, pour un théâtre qui avait été fermé pendant un certain temps pour travaux et qui avait un peu vagabondé, comme certains le savent, à travers la ville, que parfois un des vagabondages pour nous peut-être le plus complexe à penser était celui de traverser cette avenue Rému qui sépare le centre urbain de ses quartiers d'habitation environnants. Et donc ça a été un peu le point de départ de cette réflexion qu'on a juste démarré, puisque c'est un champ ouvert encore.
Moi, je m'appelle Zora Berich, je suis une des attachées relations publiques au Théâtre du Merlan depuis 2002. Puis la question de la frontière, je dirais que finalement, dans mon travail d'attachée relations publiques, je crois que j'y suis confrontée, finalement.
Alors, frontière, je vous propose qu'on commence cette conversation avec le projet qu'a mené Paulina Salminen depuis quelques temps, je crois depuis septembre 2009, ou même peut-être un petit peu avant. Un projet qui s'intitule « Un lien qui sépare ». C'est une installation vidéo et elle est visible tous les soirs, en ce moment, au cours de cette semaine, en même temps que les représentations de la compagnie Membros. C'est un projet que tu as réalisé en collaboration avec l'ADAP13. Alors peut-être, qu'est-ce qui t'a amené, Paulina, à questionner cette idée de frontières ?
En fait, c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps. En fait, les frontières, déjà, entre différents pays, après, entre différentes personnes, tout ce qui est limite, tout ce qui sépare. En fait, je l'ai déjà traité dans les travaux précédents. Et en général, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui n'est pas tellement défini. Quand il y a une frontière qui est un peu floue, quand il y a des gens qui traversent une frontière, que ce soit une frontière justement géographique ou une frontière qu'on ressent personnellement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très riche comme sujet. Et là, justement, le sujet était les frontières dans la ville, les frontières dans le quotidien des jeunes, des très jeunes habitants du quartier.
Alors, à l'instant, Anaïs, tu viens d'évoquer que finalement, le Merlan, dans ses vagabondages, s'était intéressé à des frontières qui étaient, somme toute, assez proches du théâtre lui-même. Comment s'est construit le projet avec Paulina ?
Bon, moi, je savais un petit peu sur quelles étaient les thématiques qui tenaient un peu à cœur à Paulina. Et c'est vrai que ça a été un peu une rencontre entre nous, un questionnement qu'on avait, et le sien. C'est aussi intéressant parce qu'il y a plein d'entrées possibles. C'est-à-dire qu'on peut l'apprendre de manière assez un peu première, comme ça, qui est de dire, bah, à un moment donné, une frontière, c'est une rue, c'est vraiment géographique. Il y a plein de niveaux d'analyse. Et puis, d'un coup, quand on creuse, et c'est vraiment le parcours qui a été mené avec les enfants, ça a vraiment été celui-là, hein, je crois, c'est de partir de ces frontières géographiques pour vraiment, finalement, parler de la vie ensemble, de qu'est-ce que ça voulait dire, de que aussi les barrières elles sont dans nos têtes, elles sont mentales, elles sont pas simplement physiques. Voilà, on ouvrait en tout cas un abîme de questionnements et plein de manières assez jolies d'y répondre. Donc ça a été assez intuitif au départ et finalement je crois assez juste à un moment pour l'histoire du théâtre.
Les frontières, elles sont parfois dans nos têtes, effectivement, et c'est sans doute quelque chose, Paulina, que tu as abordé dans ton travail. C'est cette idée de frontières visibles, parfois, tangibles, claires, et puis parfois de frontières invisibles. Comment est-ce que c'est ressorti, ça, dans les films que tu as réalisés, dans les interventions des gens qui ont participé à ce projet? Notamment cette notion de frontières invisibles qui est assez intéressante.
C'est quelque chose qui s'est révélé au fur et à mesure. En fait, on a travaillé donc dans les ateliers avec ce groupe des jeunes, des préadolescents. Et le point de départ, c'était la frontière très visible qui était l'avenue qui séparait donc le centre urbain du quartier de la Busserine. Et après, on a, à chaque fois, avant de filmer, on a discuté avec tout le groupe et on a cherché les différents types de frontières. Et dans les discussions, après, on a commencé à trouver des choses. Justement, en fait, il y avait des différentes questions. Par exemple, où est-ce que j'ai l'habitude d'aller? Pourquoi et pourquoi pas dans un autre endroit? Et en fait, c'était à partir de ce type de questions qu'on a commencé à trouver des limites dans le quotidien qui étaient souvent invisibles. On disait pourquoi ça, c'est une frontière, pourquoi là, c'est différent que de l'autre côté de on va dire, cet morceau d'herbe. Et après, c'était souvent des frontières que les gens avaient dans leur imagination.
Frontières qui sont parfois matérialisées très simplement par une rue, par un brin d'herbe, mais aussi peut-être aussi parfois une frontière matérialisée par le langage.
Justement, ça, je pense qu'Anne-Marie a encore plus d'expérience de ça, mais avec le groupe, on a souvent parlé de cette question de langage qu'on utilise déjà quand on faisait le bilan du projet. On a discuté des phrases qu'on pouvait y mettre, qu'il y avait des jeunes qui trouvaient qu'on ne pouvait pas utiliser tel langage parce qu'il y avait quelqu'un qui disait que ça faisait trop français. Après, on se demandait qui était français, qui n'était pas. Après, il disait non, ça fait trop quartier sud. Après, on parlait de ça. Est-ce qu'il faut habiter au quartier sud pour parler de telle façon? Donc, c'est vrai que le langage, c'est toute une question. Et c'est justement rigolo comment, après les questions de langage qui ont a priori n'ont rien à voir avec les limites géographiques, c'est souvent après dans la tête des gens, on les associe à soit un quartier, soit un pays, soit voilà.
Peut-être Anne-Marie sur cette question justement du langage comme frontière. Alors, commencez par les quartiers sud.
Commencez par les quartiers sud, ou par les Beuges, ou par les Ntello, ou par les Payot, ou par les... Voilà. Moi, ce que je voulais dire avant tout, c'est que à travers la proposition du projet initial, qui est venu donc du Théâtre du Merlan, ce qui était intéressant pour nous, avec les enfants, c'était de... non pas de travailler uniquement sur la question de l'avenue Rému et de la frontière, qui était le point de départ, finalement, mais qu'on a senti très vite qu'à travers ce thème, c'était l'occasion d'aborder plein de choses qui sont de l'ordre aussi de leurs propres frontières, de leur représentation, des préjugés, etc. Et donc, c'est allé très vite, ça. C'est-à-dire qu'au début, quand on leur a parlé des deux parties du quartier, dans les premières séances, les premiers ateliers, c'est pas ceux qui les passionnaient. D'ailleurs, ils ont très vite dit, non, mais pour le Merlan, nous, on y va. On va à la bibliothèque, on va à Carrefour, on traverse. Par contre, il y a d'autres endroits où on va pas. Et là, du coup, les discussions ont démarré sur leur représentation sur le quartier des lieux qui sont interdits ou non, qui sont quelquefois pas que des représentations, parce que c'est aussi leurs parents qui leur interdisent d'aller dans certains endroits. Et en même temps, du coup, leur propre représentation qu'ils se font, disent-ils, depuis qu'ils sont petits, on leur a posé la question, comment vous savez petit à petit qu'il ne faut pas aller là ou comment... C'est comme ça, on doit le savoir. Hein. Et en particulier, la question des territoires qui a été posée tout au long de l'atelier, avec les endroits qui sont interdits ou non, tout ce qui concerne les questions de réseaux d'activités parallèles sur le quartier, des trafics, et que donc il y a des endroits où eux-mêmes... Une enfant en témoigne dans le documentaire, mais ça a été presque le fil conducteur de tout l'atelier, c'est-à-dire aussi ces façons de se dire, il y a des endroits où en tant qu'enfant je peux aller ou pas aller, des endroits où les parents m'autorisent à aller, les grands peuvent y aller, pas moi, les histoires de communautés aussi qui sont ressorties, qui ont été surprenantes parce que c'est des enfants qui disent, mais c'est pas tellement nous, c'est parce qu'on nous apprend ça pendant qu'on grandit, qu'il faut pas aller à tel endroit, parce que là c'est le quartier des Noirs, là c'est le quartier des Blancs, et que ça a été d'ailleurs discuté longuement avec les plus grands après, parce que dans l'atelier cinéma, parce que certains ont pas accepté en fait cette vision du quartier, mais en même temps d'autres disaient que c'était tout à fait réel. Voilà. Et les enfants disent dans le bilan, on a en fait au départ pensé qu'on allait parler de géographie, comme dit Anaïs, mais on a joué avec les mots. Hein. Et c'était assez marrant de voir que la seule chose qui est sortie, c'est au moment du bilan. Il y a eu effectivement, alors que moi je les ai trouvés très riches dans les échanges, qu'ils ont utilisé des mots de vocabulaire et au niveau des phrases, etc., pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Et qu'au moment du bilan, c'est juste sur la parole d'un d'entre eux que les autres lui ont dit « Mais tu as vu comment tu parles, on dirait un petit bourgeois. Voilà. » Et que du coup, c'est là où la discussion est partie, encore une fois. Alors qu'on faisait le bilan d'un atelier de 6 mois sur la frontière, c'était... Mais alors là, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Bon, en plus, moi, c'est le genre de choses que je ne loupe pas, ça. Et du coup, il y a eu la discussion sur les mots qu'on utilise. Pourquoi on utilise ce mot ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces préjugés qui feraient qu'il y a un langage propre à tel ou tel milieu. Et surtout que le jour où on se met à parler d'une certaine façon, on se fait traiter... de beuge, et là ça a été assez amusant, je finis là-dessus, parce que du coup le beuge c'était quoi, on leur a dit. Le beuge, ben, c'est le bourgeois, et le bourgeois c'est qui, ben, c'est le riche. Alors tu as dit, non, c'est pas le riche, c'est le blanc. Donc moi je leur ai dit, ben moi je suis une bourgeoise. Non mais toi c'est pas pareil, toi, c'est pas... Non, t'es pas une bourgeoise, t'es un peu comme nous, mais les riches, c'est tous des bourgeois, et puis les bourgeois, ils sont tous des quartiers sud. Bon, du coup c'est allé comme ça, voilà. D'où la naissance d'un nouveau projet avec ce groupe, c'est de travailler sur les mots, le sens des mots, et à travers le sens des mots, les préjugés qui sont derrière. Quoi. Voilà.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samba ? Est-ce que tu penses, par rapport à ce que vient de dire à l'instant Anne-Marie, que entre les gens, il y a parfois des frontières, il y a parfois des séparations qui tiennent à la façon de parler, à la façon de s'exprimer ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Il y a beaucoup de frontières, en fait. Si moi, je mets un mec des quartiers sud ici, ils vont direct capter qu'il n'habite pas ici, parce qu'il ne va pas parler comme nous. Il va employer des mots plus français, il va pas dire exemple, il va pas dire sgeg. Et on sait tous ce que ça veut dire sgeg, mais il va pas le dire ça. Il va employer un vocabulaire plus sain.
Au-delà de la question du langage, est-ce que tu as l'impression qu'ici, autour du théâtre, dans les cités qui sont autour, il y a des frontières, il y a des endroits qu'on ne doit pas traverser parce que de l'autre côté, c'est chez les autres.
De partout, il y a des frontières. Même dans mon propre quartier, il y a des frontières. Genre, là, il y a le mail, là. La Busserine, c'est juste à côté, une petite route qui la sépare. Et quand j'avais 5 ans, un truc comme ça, ma mère, elle me disait, tu traverses pas cette rue, parce que ça y est, tu es plus dans le quartier. Alors que j'habitais tout en bas. C'est, la rue, elle était tout en haut, mais si je pouvais monter en haut, mais si je traverse la rue, ça y est, je suis plus dans le quartier. Et quand moi, je viens ici, on me dit, c'est pas la Busserine, mais pour moi, c'est la Busserine. Parce que cette rue, elle est pas dangereuse. Mais la rue qui était en haut, elle était très dangereuse. Ils faisaient des courses de voitures, c'est pour ça.
Alors parfois, il y a des gens qui traversent les frontières. Certains d'entre eux, on les appelle des touristes. Bah, c'est ceux qui voyagent hein, et qui traversent les frontières. Alors on m'a dit que parfois, il y avait certains des visiteurs du théâtre, des spectateurs du théâtre ici, qu'on appelait les touristes. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je sais pas, je crois que c'est n'importe quoi, mais... Je sais pas, moi pour l'instant j'ai jamais entendu ça, mais quand je vais entendre, ça va me faire rire.
Dans l'installation vidéo, c'est quand même ce qui est dit par une des enfants du groupe, qui est plus jeune que Samba, et qui dit quand je regarde par ma fenêtre, c'est beau de voir le théâtre allumé le soir quand il y a des spectacles, et là ils viennent des touristes. C'est vraiment le mot qu'elle a prononcé spontanément. Et je pense à la tête, les touristes, c'était ceux qui n'étaient pas du quartier qui arrivaient. Donc c'est un pays, le quartier. Dans certains milieux en campagne, on dit le pays, mais pour les enfants, le pays, c'est la busserie. Le reste, c'est les touristes.
Alors peut-être sur cette question du langage comme frontière, pour conclure sur cet aspect de la question des frontières, je proposerais volontiers à André Kolberg de nous dire quelques mots. Est-ce que le langage, ça constitue une frontière ?
Moi, ce que je remarque, c'est que finalement, ce qui sort des ateliers, c'est des choses qu'on retrouve dans les livres d'histoire, de philo, de sociaux et des linguistes. Et bien évidemment, le langage est une frontière, mais il faudrait peut-être revenir sur cette notion de frontière pour s'entendre. Il y a frontière et frontière. Parlons de la frontière au sens propre, au sens le plus commun. La frontière n'est pas qu'une délimitation géographique. La frontière produit, fabrique de l'identité et fabrique de l'altérité. Elle fabrique des étrangers. Par exemple, les Romains, quand ils poussaient la frontière un peu plus loin, ils incluaient des gens dans l'Empire romain et les autres, c'était des barbares. Et la frontière, c'était la frontière entre les barbares et la civilisation et les Romains. Mais un exemple plus récent qui permet de montrer comment on est tous tenus par ces constructions, c'est le débat qu'il y a eu sur la Turquie pour savoir si elle devait être inclue dans l'Europe ou pas. Une partie des gens qui étaient contre l'entrée de la Turquie en Europe étaient des gens qui disaient que l'Europe était chrétienne et que en Turquie, comme il y a une majorité de musulmans, ce sont des gens qui ne font pas partie de l'Europe. Et si on construit une frontière, justement, à l'orée de la Turquie, c'est une façon de construire des étrangers. Les musulmans seraient par définition étrangers à l'Europe. Et c'est une façon de construire de l'identité, c'est-à-dire que l'Europe serait nécessairement chrétienne. Voilà, la frontière n'est pas qu'un trait qu'on trace, c'est quelque chose qui fabrique. Et il y avait un autre exemple, un bel exemple qui était donné sur une autre frontière, c'était le psychiatre Roger Gentis, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les murs de l'asile » et qui montrait, alors là on va retrouver le langage, qui montrait que quand on rentrait dans l'asile, la façon dont on décrivait nos comportements changeait. Par exemple, il y a des gens qui parlent beaucoup et on dit « bon, ben, ils parlent beaucoup ». Mais quand ils rentrent dans l'asile, on dit Gentis, ils ont la logorrhée. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils rentrent dans l'asile, on dit ils sont mutiques. Hein? Et de cette façon, le fait de passer la frontière du mur de l'asile change le vocabulaire et change la représentation qu'on se fait des personnes. Donc, effectivement, tous les exemples qu'on nous a donnés, c'est des choses qui sont établies par les sociologues, les historiens, etc., depuis longtemps. Mais j'ajouterai un point, c'est que dans les frontières, comme vous l'avez dit très bien, il y a les frontières visibles et invisibles. Hein, la fameuse paroi, le plafond de verre qui fait qu'on ne peut pas, par exemple, trouver du travail si on a une certaine couleur de peau, si on vient de certains quartiers, si on a un certain langage. Seulement là, il faut faire attention au fait que le fonctionnement n'est plus tout à fait le même. Parce que quand on a une couleur de peau, par exemple, la frontière, on la transporte avec soi. C'est pas seulement une frontière qui est celle du quartier, c'est une frontière qui va nous suivre, y compris dans le reste de la ville, dans le reste du pays, etc. Et du coup, c'est aussi une frontière qui, des fois, est encore plus difficile à traverser qu'une autre, que la frontière classique. Mais c'est une frontière machiavélique, parce qu'on la transporte partout avec soi.
frontière immatérielle, frontière virtuelle peut-être. On va aborder tout à l'heure ces questions, mais j'ai noté dans ce que tu viens d'évoquer, André, cette idée que l'identité construit de la frontière, que la frontière construit de l'identité, enfin en tout cas qu'il y a une relation évidente entre ces deux notions. Et peut-être que là, on va pouvoir écouter un texte que nous a envoyé Paulo Azevedo, qui est le directeur de la compagnie Membros, qui devait être avec nous et qui, hélas, a dû rentrer au Brésil. On va peut-être écouter ce texte et ensuite en discuter avec Felipe.
Donc le texte disait « Je crois que les mots « fabrique » et « identité » sont, dans la propre question, viennent dans la question comme une provocation. Car, de mon point de vue, ces deux mots ne peuvent pas coexister de manière pacifique. Une fabrique est un modèle d'opération ininterrompue, toute faite et moulée, qui permet d'atteindre un certain résultat préétabli et disciplinant. C'est le même modèle qui s'articule avec efficience dans les écoles, dans les prisons et dans les hospices. Une identité est une synthèse des relations qui se produisent comme référentiel symbolique et culturel pour construire une déterminée expression. Malgré le fait d'être uni par des conduites sémiotiques, c'est un concept ouvert au temps, ouvert à l'espace, et contemporain des acteurs sociaux qui le vivent. Comme vous-même l'avez proposé, le multiculturalisme va permettre une analyse pulvérisée de ces relations, d'autant plus pulvérisée que dans une circonstance globale, je préférerais appeler cela une identification culturelle et moins une identité. Ces identifications vont suggérer une potentialité proxémique, une pulsion affective qui occupe tous les comportements, tous les gestes et les expressions d'un groupe. Toutefois, au contraire d'une fabrique d'identité, l'identification, ou la proxémie, peut se dissoudre avec la même force qu'elle unit, un trait typique des grandes passions. Ou alors, ces frontières, dans ce cas-ci, sont basées sur des principes esthétiques où la mode, la gestuelle et le corps sont déterminants d'une organisation sociale uniforme, distincte l'une de l'autre.
Le langage parfois une frontière, mais là on a vraiment fait l'effort de les franchir à tout point de vue, dans la traduction, mais aussi parfois dans la manière dont le langage et dont les choses sont tournées. Cette idée que la relation entre la frontière et l'identité, elle est sans doute différente dans un pays comme le Brésil, comme le dit là à l'instant Paolo dans son intervention, parce que le Brésil est un pays multiculturel. Et il ne s'agit pas d'une identité nationale, comme un certain président français a voulu nous en mettre des tartines récemment, mais il s'agit d'une autre forme d'identité, peut-être sur le sentiment que Felipe a justement de l'identité au Brésil, qui est une identité très, très diverse, qui accepte la diversité, qui est multiculturelle. Comment il le ressent ?
No Brasil, existe un problème muito grave qui est la question sociale.
Au Brésil, il y a un problème très grave, c'est la question sociale.
Et économique.
Économique.
Économique. Et isso, né, pour le monde tout le sabe, né, pour le monde tout le monde entende. Sait. Mas acredito que uma questão muito intensa no Brasil, e penso que também no mundo todo, é a questão das fronteiras criadas pela visão.
Au Brésil, un problème intense qui est parfois aussi peut aller dans d'autres parties du monde, c'est le problème de la vision.
No Brasil, plus spécifiquement, existem lugares.
Au Brésil, il y a certains endroits
qui fréquentent pessoas de diferentes niveaux sociaux.
Des personnes de différents niveaux sociaux.
De différentes etnies.
D'ethnies différentes.
Et religions.
Et de religions différentes fréquentes.
Mais a forma que enxerga o outro,
mais la manière de se percevoir l'un l'autre,
a visão imposta em cima do outro,
la vision qu'on impose à l'autre,
já impõe a fronteira.
C'est là que la frontière se définit.
Isso a gente pode ver, isso nós enxergamos em diversas áreas, como por exemplo,
on le voit dans diverses...
quando entramos em uma festa, a forma que o segurança te olha já é uma forma intimidativa.
On le voit dans plusieurs exemples. Par exemple, dans une fête, la personne qui fait la sécurité te regarde déjà d'une manière intimidante.
Et podemos apanhar o contrário quando uma mãe cheia de carinho te enxerga e à travers desse mesmo olhar ela te transmite afeto.
Ou aussi dans la manière de percevoir lorsque une mère regarde son enfant, elle le regarde d'une manière très affectueuse.
À partir desses dois exemplos.
Donc à partir de ces deux exemples.
Eu posso dizer, o que acontece muito no Brasil é isso. A pessoa, ela te aceita no mesmo lugar.
C'est ça, c'est que les personnes sont acceptées dans le même endroit.
Mas cria-se as fronteiras a partir da forma que ele enxerga, da forma que te olha.
Mais la frontière est créée à partir de la manière dont les personnes se regardent.
Ça, c'est très intéressant. La frontière, ça n'est pas uniquement la définition de territoire matériel, mais la frontière est parfois dans le regard des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un rebond à ce que vient de dire Philippe et à l'instant.
Ça m'envoie deux choses. D'une part, dans le regard que les gens ont, mais aussi dans le regard que l'on porte aussi sur soi. C'est-à-dire que c'est aussi souvent ça. C'est-à-dire que c'est comment on incorpore un certain nombre de... On auto-incorpore tellement d'interdits ou d'impossibilités que c'est peut-être les frontières que l'on s'est mises en soi qui sont peut-être les plus difficiles aussi à dépasser.
C'est pas des frontières que tu te mets tout seul, enfin que tu t'imposes tout seul. C'est soit parce qu'à un moment donné, tes parents te font comprendre que de toute façon, ta vie, elle se déroulera que de cette manière et pas autrement, parce que tu vas rencontrer des professeurs qui te pousseront pas plus loin, parce qu'à un moment donné, je sais pas, c'est toujours, c'est pas soi. Soit, je pense qu'au départ, on est des êtres qui ont plutôt soif d'aller au-delà. On ne voit pas les frontières quand on est enfant, quoi. Je pense qu'on est pris à jouer avec n'importe qui. C'est le monde, je pense, pour un enfant, c'est plutôt le monde adulte qui l'entoure au départ, qui peut-être le sécurise trop. C'est pas des interdits pour faire du mal, hein. Parfois, c'est vrai que c'est par précaution, par prévention. Mais voilà, après, peut-être c'est mal fait. Et dans les... Enfin, non. Je dirais que... Pour des gamins qui vivent dans un territoire donné, qui s'appelle un quartier, et encore un quartier, normalement un quartier, le mot quartier, c'est un joli mot. Parce qu'un quartier, normalement, c'est grand, c'est censé être grand. Mais pour des gamins, parfois, le quartier, ça se limite à la cité HLM. Et c'est là d'où vient le problème. C'est vraiment les mots, hein, on en revient encore à ça. Il faut faire un réel travail sur les mots, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, un quartier, c'est quoi réellement? Et c'est tout un travail sur l'imaginaire, hein, vraiment, qu'il faut faire. Hein. C'est plus que les mots, c'est l'imaginaire. C'est développer cette capacité de s'imaginer autrement, plus grand. Il y a un des bouquins, mais après ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un des bouquins d'un des footballeurs, Lilian Thuram, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Mes étoiles noires ». Et il parle de ça, justement. Il y a un travail à faire sur vraiment... De développer cette capacité qui nous est propre à chacun de l'imaginaire, quoi, pour se voir autrement, d'arrêter d'imaginer que le noir égale esclave. Non, le noir, c'est pas... Voilà, quand on veut parler des noirs, tout de suite, on nous rebassine l'esclavage, comme si le noir, il a toujours été esclave, quoi. Donc, à un moment donné, c'est réducteur.
André ?
Je voudrais aller dans le sens de ce qui a été dit pour dire que... ce sont des constructions sociales, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard si on ressent une frontière, si, comme le disait Philippe, on voit quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai fait un travail sur ce qu'était un émigré. Un immigré. Un immigré, normalement, c'est quelqu'un qui est né dans un pays étranger, qui était étranger, qui est venu vivre en France. Comme vous savez, on parle d'immigrés à propos de gens qui n'ont rien à voir avec ça, qui vivent, qui sont français depuis 4 générations éventuellement en France, et qui ne sont pas du tout nés à l'étranger, etc. Alors qu'est-ce que c'était un immigré ? Je me suis posé la question. Et quand on regarde ce que tous les adjectifs qu'on met, toutes les descriptions qu'on met autour de l'immigré, on se rend compte que c'est une catégorie qui correspondait aux époques coloniales, à ceux qu'on appelait les indigènes, les noirs, les arabes, les jaunes, comme on disait à l'époque, que c'était le faciès qui disait qui était l'immigré, et pas du tout sa fonction juridique, etc. Et sur cet immigré, comme dans des poupées russes, il y avait des tas de choses qu'on rattachait. Alors, dans le journal, à l'époque, quand j'avais fait l'étude, on rattachait les phénomènes de délinquance, les phénomènes de fanatisme religieux, etc. Et d'une certaine manière, simplement par ce mot, immédiatement, dans la tête de chacun, il y a tout cet assemblage qui se construit, mais même pour nous. C'est-à-dire, nous, quand nous pensons émigrer, nous ne pensons pas à des grands blonds aux yeux bleus. Or, il y en a beaucoup. Cet assemblage qui se fait immédiatement, automatiquement, eh bien, nous-mêmes, nous en sommes victimes. Ça montre la force de la construction sociale des frontières et de l'altérité.
Les frontières construites socialement. Je voudrais peut-être proposer à Paulina de rebondir sur ce que disait à l'instant, enfin plutôt tout à l'heure, Philippe, sur cette idée que la frontière, ça n'est pas uniquement une question de territoire, mais c'est d'abord avant tout une question de regard. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, dans le projet que tu as mis en œuvre, justement ?
Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on voit partout, que c'est la façon de voir les gens, c'est la façon dont on s'imagine que les autres nous regardent. Et que voilà, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Et ça se voyait beaucoup dans le groupe aussi, qu'il y avait beaucoup d'idées justement où on peut aller aussi, que c'était parfois des choses imaginaires. Après, je pense qu'il y avait beaucoup de vérité aussi là-dedans, qu'il y avait des mauvaises expériences, quelqu'un qui était allé à un endroit où on l'a agressé verbalement ou d'une autre façon, et ce qui fait qu'on n'a plus envie d'y aller une deuxième fois, on n'a pas envie de tenter, ça change. Donc, tout ça, ça existe. Et après, je pensais aussi pour la question justement aussi du langage et du fait d'être étranger, ou la question des Français, l'identité nationale. Ce qui était assez intéressant avec ce travail, c'était que comme moi-même, je suis étrangère, je viens un peu en dehors de tout ça, toute cette question de français, pas français, d'origine, quelle origine, etc. Et je pense que ça, c'était assez intéressant, déjà au niveau langage, parce que moi, de toute façon, je parlais toujours moins franco-français que les jeunes, même si eux, ils trouvent qu'ils ne parlent pas très français. Moi, de toute façon, je parlais moins français qu'eux. Donc après, ça donnait aussi la place pour les conversations assez intéressantes, où souvent, je devais leur demander aussi de m'expliquer des mots qu'ils utilisaient. Et c'était ça aussi qui était parfois assez étonnant, parce que expliquer des mots, ce n'était pas évident, et c'est ça qui crée aussi quelque chose. Donc cette question qui est étranger, qui a le droit. En même temps, moi, peut-être c'est différent, je suis peut-être plus mobile dans ce sens-là, que justement je viens de loin, je passe d'un pays à l'autre, c'est pas pareil, mais c'est justement quelque chose qu'on me rencontre qui est intéressant de voir.
Quand on a travaillé avec les enfants, on a été quand même assez étonnés ensemble de voir comment, à l'échelle d'un petit territoire comme le quartier, d'ailleurs ils le disent à la fois dans le petit livre qu'ils ont fait, mais les grands l'ont dit aussi dans l'atelier cinéma, c'est sur la frontière, c'est comment à l'échelle d'un petit quartier, on recrée plein de nouveaux territoires qui sont séparés. Et du coup, certains disaient, si je me déplace de mon bâtiment à un autre, on dit, je vais à tel endroit, je quitte le quartier, on disait, hein, pour aller à deux bâtiments d'intervalle, je quitte mon quartier, je vais à un autre. Et il y avait des enfants qui disaient, mais de toute façon, si on va sur le terrain, par exemple, où ce soir, il y a le spectacle de l'accompagnement Bros, c'est pour ça qu'on a proposé qu'il soit lieu là. Une partie des enfants disent, quand on va sur ce terrain, les autres nous disent, c'est pas ton quartier, ils ont deux bâtiments plus bas, hein, ça tu le partages, c'est en bas. C'est pas ton quartier, tu retournes vers ton terrain en bas. Et donc, les enfants s'interrogeaient sur pourquoi, sur ce qu'il y a besoin d'avoir toujours des endroits. Donc, est-ce que c'est une protection ? Est-ce que c'est une question d'identité ? Est-ce que c'est question de dire, moi, j'ai mon territoire, toi, tu as le tien ? Et peut-être que nous, le plus gros travail qu'on a à faire, c'est de tisser tous ces liens et d'investir les lieux qui permettent que les gens se rencontrent. Parce que, in fine, aujourd'hui, par rapport à la question du Mail, les enfants disent aussi que leurs parents ont peur qu'ils aillent aussi au Mail, qui est une cité qui traverse une petite rue dans le quartier, parce que avant il y avait beaucoup de Noirs, maintenant, il y a beaucoup de Turcs. Ça, au début, ça ne le dit pas, c'est le danger, il vient aussi de là. Mais quand les enfants se croisent à l'école, au collège, etc., ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Donc comment arriver à tisser ces liens et ces rencontres, pas laisser des territoires investis par des groupes qui se les approprient, traverser les frontières et aller vers l'autre, quoi.
Peut-être juste, ça me fait aussi rebondir sur le fait que nous, ce qui est intéressant aussi, sur à chaque fois qu'on a eu des artistes, notamment internationaux, qui viennent d'ailleurs, c'est comment d'un coup, justement, ils font complètement bouger toutes ces lignes-là. Parce que nous-mêmes, on est plein d'a priori, de préjugés, de visions préétablies, de qu'est-ce que c'est que ce quartier qu'on connaît finalement très peu ou très mal. Et c'est vrai que c'est souvent parce qu'on a eu des artistes, je repense vraiment au Hungle par exemple, à ces Allemands, ces Berlinois qui sont venus là et qui ont tissé, mais de manière extrêmement simple, qui se sont trouvés à se balader la nuit sur la Busserine, à aller dans un petit bar où jamais on n'aurait mis les pieds, on s'est retrouvés à organiser un apéro là-bas. C'était assez complètement délirant, aussi bien pour nous, pour les gens qui étaient là, que pour les gens... Enfin, ça a créé vraiment un moment unique, et je trouve que, voilà, que c'est toujours aussi très intéressant de comment tu amènes, et avec les Membros, c'est aussi la même chose quand, quand on fait un training sur la dalle un samedi matin, on est tous ailleurs. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de, voilà, qui fait bouger, mine de rien, tout doucement, qui déplace pour chacun un tout petit peu les frontières. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire quand on est là, enfin, en tout cas dans cet endroit, quand on est dans un théâtre. Je pense que c'est vraiment là où on a encore... En tout cas, ça donne du jus pour continuer, parce que ça donne vraiment envie de... Dès qu'on voit que ça frémit et que ça bouge pour tout le monde, c'est là où c'est passionnant, quoi.
Déplacer les regards, effacer les préjugés, les faire bouger, c'est effectivement le travail des artistes. Et justement, on va peut-être proposer à Felipe de nous dire un peu comment est-ce qu'il perçoit, lui, cette notion de territoire, de traverser des territoires, de zones interdites, de zones qui sont parfois occupées par des occupants. Anne-Marie, tout à l'heure, tu parlais des trafiquants qui s'appropriaient des lieux. Alors peut-être comment est-ce que lui le perçoit depuis le Brésil, qui est son pays, et comment est-ce qu'il trouve des points communs, et puis parfois peut-être aussi des différences par rapport à ce qu'il a ressenti en traversant la ville de Marseille.
Vou citar um exemplo.
Je vais citer un exemple.
Um tanto absurdo.
Un peu absurde.
Do que acontece no Brasil.
De ce qui se passe au Brésil.
No Brasil existem diversas favelas.
No Brasil il y a différentes favelas.
Com pontos de tráfico específicos em cada favela.
Avec des points spécifiques de trafic dans chaque favela.
E existem também duas ou três facções criminosas, grandes facções criminosas.
Il existe deux ou trois grandes factions criminelles.
No Rio especificamente.
Spécifiquement à Rio de Janeiro.
Que possuem pontos de droga muito próximos.
Qui ont des points de vente de drogue qui sont très proches l'un de l'autre.
Um utiliza a cor vermelha como sendo a sua marca.
L'un de ces groupes a la couleur rouge comme marque reconnaissante du groupe.
Então chega ao absurdo de se alguém vestindo a cor vermelha.
On arrive à l'absurde du fait que si quelqu'un utilise un vêtement rouge.
Entrar no outro território.
Et qui rentre dans un autre territoire.
Os traficantes eles fazem absurdos como espancar, como humilhar.
Les trafiquants peuvent le battre, l'humilier.
Dependendo do humor deles, até matar.
Et en fonction de leur humeur, ils peuvent même le tuer.
Porque encaram isso como uma falta de respeito.
Parce que pour eux, c'est comme un manque de respect.
Isso eu ainda, esses extremos, eu não consegui enxergar aqui ainda.
Arriver à de telles extrémités, il n'a pas vécu ça ici.
Mas eu consegui enxergar
grupos
específicos que se vestem de forma semelhante,
que se movimentam de forma semelhante, façon, que se déplacent d'une certaine façon,
e que utilizam o meio urbano de forma semelhante,
que utilizam o tissu urbain de maneira similaire.
Essas fronteiras eu consegui enxergar aqui.
Ce type de frontières, il les a vues ici.
La peau, ou par extension le vêtement comme première frontière, vraiment intéressant là aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as dit en rouge, il y aura attention. Blague à part, qu'est-ce que vous en pensez de la peau finalement première frontière? Samba?
Moi je voulais parler des abîmes, parce que genre au quartier nord, quand tout le monde dit ouais, sur Lacoste, TN, de la marque et tout ça. Ça fait que au quartier sud, pour pas qu'ils ont des problèmes avec les, entre guillemets, avec les quartiers nord, pour pas qu'ils se font arracher ou un truc comme ça, ça veut dire eux, ils vont s'habiller comme nous. Ils vont s'habiller comme les quartiers nord, ils vont dire ouais, je viens des quartiers nord, dans le bus je vais mettre la musique comme ça, et les gens ils croient que je viens des quartiers nord. Je vais faire écouter de la musique des quartiers nord comme ça, et les gens ils croient que je viens des quartiers nord. Au moins j'ai pas de problème. Ça fait qu'ils vont se déguiser. Ils utilisent les trucs des quartiers nord, mais en fait, c'est pas obligé. Ça se peut que c'est un mec du quartier sud qui va rester un mec du quartier nord. Ça dépend.
equilíbrio.
É interessante observar isso.
C'est intéressant d'observer cela.
Os próprios habitantes, assim, por essas localidades.
Les propres habitants de ces lieux.
Identificam esses códigos.
Identifient ces codes.
E criam táticas de burlar essas fronteiras.
Et créent des tactiques pour contourner ces frontières.
Esse é um exemplo.
Donc, ceci est un exemple.
Eu sou de um bairro que usa o vermelho.
Si moi je suis d'un quartier où la couleur est rouge.
Se eu vou pro outro, eu não uso vermelho.
Si je vais dans un autre quartier dominé par d'autres, par une autre fraction criminelle, je ne vais pas utiliser le rouge.
E ando como se fosse de lá.
Et je vais marcher comme si j'étais un quelqu'un de ce quartier-là.
Voilà. Un tout petit exemple qui a pas forcément grand chose à voir, mais justement en parlant de Kant. Quand on vient complètement d'ailleurs, comment on peut être inconscient de tous ces codes? Je pense à ma mère, donc finlandaise, qui était de visite à Marseille et qui s'habille toujours en survêtement blanc parce qu'elle trouve ça pratique. Pas Lacoste, mais elle était vraiment habillée comme ça. Et après, elle a aussi ses bijoux en or et tout ça qu'elle n'a pas enlevé. Voilà. Et elle s'est vraiment... Quand on s'est baladé dans le métro, elle s'est complètement, comment dire, on l'a perdue dans la foule des jeunes parce qu'on l'a plus distinguée de la foule parce qu'elle s'habillait comme tous les jeunes qui traînaient dans le métro. Donc parfois, c'est ça, que c'est un code pour quelqu'un et en fait, quand on vient d'ailleurs, on ne se rend pas, même pas compte. On se dit, ah oui, tout le monde, ici, les gens s'habillent pratiques parce qu'ils sont sportifs et tout. Et en fait, ça peut être justement un habit dans certains quartiers et tout ça.
Alors là, on aborde justement cette question du franchissement des frontières et où on se rend compte finalement que ces frontières, on n'a pas forcément besoin de les aborder de front, de vouloir les traverser en force, mais que parfois les stratégies de contournement de ces frontières sont très efficaces aussi. Peut-être André, sur cette idée de franchir les frontières ou peut-être parfois simplement les contourner.
C'est pas si facile, moi qui ai travaillé sur l'extrême droite. Ce que je sais, c'est que dans les livres d'extrême droite, on dénonce. Par exemple, à une époque où les juifs, dans les années 30, n'étaient plus perçus comme juifs, où on ne voyait rien, ils n'avaient pas d'habits particuliers, ils n'avaient pas de langage particulier, etc. Il y avait des tas de livres qui aidaient à identifier les juifs par le nom qu'ils avaient. Et je vous signale que ce genre de livre existe toujours. Il y a des gens qui, de nos jours encore, sortent des livres de ce genre. Donc, première chose, on les construit, les frontières. Donc, ce n'est pas si facile de les contourner. Deuxième chose, je rappelle que quand même, il y a beaucoup de frontières qu'on construit au sens propre. Et qu'une des industries qui n'a pas souffert de la crise, c'est celle du barbelé. On va construire un camp de rétention bientôt en France, où il y aura plus de 240 places, qui sera, disent les projets, enfermé entre deux cercles de barbelés. Il n'y en aura pas qu'un, il y en aura deux. Le barbelé, je vous rappelle, il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire des barbelés. Le barbelé, c'est quelque chose qui est une frontière, qui n'est pas simplement une délimitation, mais qui fait mal, qui repousse. Et donc, des frontières au sens propre, ou des frontières qui viennent des propagandes nationalistes ou simplement de l'intolérance générale, etc., elles sont construites constamment. Hein. Il faut lire les journaux pour voir combien il est difficile d'y échapper. Alors, fort heureusement, il y a des gens qui arrivent quand même à y échapper, mais ce qu'on disait dans les années 30, par exemple, c'est que elle risque tout le temps de nous retomber dessus. C'est-à-dire ce que disaient des juifs à l'époque, mais ça aurait pu être une autre catégorie. Ils disaient, tout le monde a oublié, etc. Mais je sais qu'un jour, tout d'un coup, quelqu'un me rappellera mon origine. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on arrive à les contourner, mais moi, j'insisterai aussi sur tout ce qui est construit pour empêcher qu'on les contourne.
Des constructions pour empêcher le franchissement des frontières, pour empêcher leur contournement, mais heureusement aussi, il n'y a pas que des douaniers aux frontières, il y a aussi parfois des passeurs. Alors qui sont les passeurs des frontières? Et je pense notamment aux frontières culturelles, aux frontières qu'on porte en soi, qu'on porte dans sa tête. Comment on fait pour être passeur des frontières, Anne-Marie?
Comment on fait pour être passeur d'une frontière? Moi, je le vis
à une échelle professionnelle, parce que c'est un peu la priorité de mon travail, c'est-à-dire faire qu'il y ait des passages, des trous dans les frontières en permanence et par lesquels on fasse passer, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on a vu aussi que la notion de passeur, elle est souvent assujettie aussi à ceux qui utilisent les frontières pour leur propre profit. Donc là, la question, je parlais du lien tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il me semble qu'arriver à tricoter, tisser ces liens, établir ces passerelles entre des personnes différentes, des générations différentes, des communautés différentes, des milieux qui ont des codes différents, entre des enfants et des lieux où ils se sont construits eux-mêmes l'image qu'ils ne pouvaient pas aller, il me semble que c'est ça, créer le passage, quoi. Voilà. Et c'est construire aussi l'adulte, c'est pour ça que le commencer le plus tôt possible, c'est important. C'est construire un adulte qui a petit à petit effacé ses frontières invisibles. Une phrase, moi j'ai trouvé forte, qu'ont dit les enfants, quand on leur a dit « mais comment on sait que les frontières existent ?» C'est comme ça, il faut qu'on le sache. Depuis qu'on est petit, il faut qu'on le sache. Celles qui sont les plus difficiles à franchir, il dit « on doit le savoir ». Et bon, ça veut dire quand même aussi que pour eux, c'est quelque chose qui leur est difficile à franchir. Si on ne les aide pas, s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre et si on ne les aide pas à passer le cap.
Les frontières, il faut qu'on les sache. Les frontières, ça veut dire que, bah, avant tout, elles sont culturelles avant d'être matérialisées par de l'économie ou par des barbelés, comme le disait André tout à l'heure. Ce qui est quand même un comble, parce que la culture, c'est en théorie quelque chose qui ne connaît pas de frontières, qui est fait pour traverser toutes les frontières. Et pourtant, on se rend compte parfois que la culture, elle est instrumentée comme un instrument de séparation, un lien qui sépare. Et on retrouve là le titre de l'installation vidéo de Paulina Salminen. La culture serait-elle un lien qui sépare ?
Je dirais c'est d'accepter la différence. Un théâtre, forcément, c'est différent de la maison. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'un gamin, un théâtre, c'est pas chez lui. Enfin, il sait pas comment franchir la porte, ce qui lui est permis dans ce lieu-là. Est-ce que déjà, voilà, enfin, c'est déjà d'accepter que la différence de chacun pour pouvoir, quoi qu'il en soit, se rencontrer. Parce que de dire, bon, en même temps, c'est bien parce que c'est porteur de dire que l'art et la culture, c'est fait pour tout le monde. Et quand on dit ça, on se dit oui, mais bon, pas vraiment. Je pense qu'une fois qu'on a balayé ça et de se dire, on est un théâtre, certes, un théâtre, c'est particulier, ça, c'est spécificité, et c'est de quelque part d'aller à la rencontre de l'autre avec cette différence-là, toutes ces spécificités-là. Dans un théâtre, on accueille des artistes. Et alors, c'est vrai, après, les artistes, ils travaillent d'une certaine manière, ils ne travaillent pas comme le père de famille à l'usine. Donc c'est ça, c'est ces mondes différents, ces univers. Parce que bon, le côté culture et art pour tout le monde, voilà, ça ne suffit pas. Enfin, à un moment donné, ça ne suffit pas. Concrètement, sur le terrain, on se rend compte qu'une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas, quoi. C'est plutôt de se dire, je vais faire des trous dans ces putains de frontières pour se faire rencontrer des gens. Je vais casser les barrières pour que les gamins puissent franchir la rue et penser que de l'autre côté de la rue, c'est aussi son quartier. Ça, c'est une partie du territoire qui va construire sa personne, quoi. Parce que sinon, à un moment donné, c'est très réducteur, quoi, de s'empêcher. C'est-à-dire, c'est différent et t'as le droit, oui. C'est pas pareil, on est d'accord, mais t'as le droit aussi. C'est compliqué, mais t'as le droit.
La culture pour tous, ça ne suffit pas, André ?
L'exemple de la philosophie est une caricature de la séparation que produit la culture, vu que la plupart du temps, personne ne comprend rien. Et même en terminale, il y a beaucoup d'élèves qui souffrent parce que, quelquefois, ils ne comprennent rien non plus. Mais ce n'est pas une fatalité. Moi, je participe aux universités populaires où on se débrouille pour que la culture la plus exigeante puisse être mise au service de tous, justement, et c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible d'expliquer, y compris la philosophie, à des gens qui ne sont absolument pas des spécialistes. C'est possible dans les quartiers, ça c'est le projet qu'il y a ici, d'amener au cinéma des gens qui n'y vont pas et d'en faire un usage critique. Toutes ces choses-là sont possibles, mais il faut reconnaître qu'il y a des pesanteurs, que la culture est souvent utilisée comme mode de distinction sociale.
La culture utilisée comme mode de distinction sociale, peut-être Felipe, et comment tu le ressens, toi ?
Eu vou falar pouco sobre aquilo que eu vivo e que eu tenho experiência.
Je vais parler de mon vécu.
Acredito que A cultura, sim, ela funciona como forma de distinção.
Je crois que la culture fonctionne avec.
Mas que em algum momento.
Diversion.
Ela também cria uma certa fascinação.
À un certain moment, elle crée aussi une certaine fascination.
De você buscar entender como a cultura do outro funciona.
De chercher comment la culture de l'autre fonctionne.
Posso dar um exemplo? Adoro dar exemplos.
J'aime bien donner des exemples. Je vais en donner un.
A cultura funk.
La culture
no
funk.
No Rio de Janeiro.
À Rio de Janeiro.
É peculiar ao subúrbio.
Appartient
ao povo de baixa renda, né?
Appartient au quartier défavorisé.
E hoje em dia nós chegamos ao cúmulo de encontrar festas funk.
De nos jours, on voit des fêtes funk.
No Rio de Janeiro.
À Rio.
Que custam absurdos de 60 a 100 reais a entrada.
Dont le prix d'entrée est entre 60 et 100 reais, ça fait très cher.
Então é como acontece a apropriação da cultura do outro.
La réappropriation de la culture de l'autre.
Você enxerga que aquela cultura tem poder.
Donc on remarque que cette culture a un certain pouvoir.
Você vê que aquela cultura atrai.
Qu'elle a un pouvoir d'attraction.
Então você passa a se apropriar daquela cultura.
Alors, tu te l'appropries.
Isso poderia ser visto como uma quebra de fronteira, sim.
Ça pourrait être vu comme une manière de casser la frontière.
Mas é uma forma de criar-se novas fronteiras.
Mais c'est surtout une manière de créer d'autres, de nouvelles frontières.
E hyper mais cruéis.
Et hyper beaucoup, mais cruéis. Beaucoup plus cruel.
Porque você pega a cultura do outro, se apropria.
Que tu t'appropries de la culture
e o outro não tem acesso mais àquela cultura que se originou dele.
Et l'autre n'a même plus accès à la culture qu'il a lui-même engendrée.
Dépossession de la culture par l'économie. Peut-être on continue, on termine ce petit tour de table. Peut-être Paulina ou Samba. Et comment éviter aujourd'hui d'avoir une culture de bourge ou qu'elle soit récupérée?
Je sais pas, déjà nous, si on parle de culture dans les quartiers nord, ils se mélangent tous déjà. Genre, si tu peux faire un truc dans le quartier, dis-toi que tout le monde va le savoir le lendemain. Ça veut dire que. On est tous solidaires en fait. Même s'il y a des frontières, mais on se connaît quand même. Ça fait que les cultures en fait se mélangent.
Paulina, peut-être pour conclure.
La culture comme distinction sociale, oui, tout à fait, oui, ça existe beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de lieux de culture, on va dire, ou de spectacles ou d'expositions, tout ça, où il n'est pas facile d'entrer, où il faut justement avoir un certain langage, une certaine façon de s'habiller, tout ça. Donc c'est difficile pour beaucoup de gens. Et j'ai vu justement ça, par exemple, si on parle des expositions en centre-ville, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent... Il y a des gens qui sont habitués, je connaissais beaucoup de monde qui ne s'intéresse pas du tout à l'art, mais qui vont là pour boire des coups et qui n'ont aucune difficulté à rentrer. Quand ils voient que le vin est servi, ils y vont. Et après, il y a d'autres gens qui ne sont pas forcément dans ce milieu, qui pensent qu'il faut avoir une invitation ou une tenue spéciale et tout ça. Donc oui, il existe encore comme un seuil de la porte des lieux de la culture. Donc je trouve que c'est toujours très bien si on essaye de faire rentrer des publics qui ne sont pas forcément habitués. Après, c'est difficile, c'est toujours bien si on peut impliquer les habitants dans les projets qui donnent plus envie aussi aux habitants de consommer ou voir d'autres projets culturels.
Parce qu'il me semble que ce n'est pas un hasard si on a cette discussion à l'occasion de la venue de la compagnie Mambros. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres... C'est pas parce que Philippe est là, hein. Il ne serait pas là, ce serait pareil. C'est quand même la première fois, au moment de la réouverture du Théâtre du Merlan, que la compagnie qui venait à cette occasion a accepté et a proposé, après comment ça s'est fait avec le Merlan, de venir installer un spectacle au milieu du quartier. C'est-à-dire que là, du coup, il y a 2 ans, un spectacle a été joué dans la rue et tout le travail qu'on a fait avec tout un groupe de jeunes, c'est de faciliter le fait que des gens extérieurs au quartier puissent y venir, comme les gens du quartier puissent aussi venir. Et que du coup, ça a été vécu, parce que ça laisse des traces encore aujourd'hui. Quand aujourd'hui on a affiché pour ce soir, pour Flores, les gens du quartier savaient que qui était la compagnie qui revenait. C'est-à-dire qu'ils sont venus chez eux, enfin, encore une fois, c'est chez eux, dedans, dehors, etc. Mais
C'est pas rien, parce que c'est un peu vécu comme un cadeau. C'est un spectacle de qualité au pied de l'immeuble, et ça, c'est rare, ça se produit pas souvent. Et du coup, les personnes, et samedi matin, c'est ce qui s'est passé aussi lors du training, moi j'ai adoré ça, c'est-à-dire qu'il y avait un mélange des gamins, des jeunes du quartier, de mamans qui venaient voir, avec des gens, des habitants de la ville de Marseille qui n'étaient pas du quartier, qui sont venus danser avec les jeunes au moment embarqué par les deux personnes de l'accompagnement Bros. Ça, c'est des événements qu'on voit peu souvent. Hein. Et du coup, ça, là aussi, ça casse toutes ces barrières, ces frontières. C'est quand même la question des territoires, de la violence. Et bien là, le fait qu'à des moments, il y ait cette possibilité de venir rentrer dans le quartier à propos d'un spectacle et qu'on se dise, tiens, on peut venir à la Busserine, sachant que la première idée des jeunes à l'époque, il y a 2 ans, c'était les gens extérieurs au quartier viendront jamais. Et en fait, il y a eu un vrai mélange, une mixité de population ce jour-là, parce qu'il y a eu un support qui a intéressé tout le monde. Voilà.
Écoutez une conversation perchée sur le thème des frontières enregistrée au Théâtre du Merlan le 10 mars 2010. Vous y avez entendu Felipe Itagiba, danseur au sein de la compagnie Membros, traduit par Gilles Gibert, André Kuhlberg, philosophe, Paulina Salminen, plasticienne et vidéaste, Samba Soumaré, participant aux ateliers de cinéma proposés par l'association ADAP 13, encadrée par Anne-Marie Tagawa, et enfin Anaïs Lemaignan et Zora Berich représentaient le Merlan. Le Merlan qui, après la compagnie Membros, accueillera du 27 mars au 4 avril le chorégraphe Virgilio Sieni avec un projet autour de l'art du geste en Méditerranée. Le détail de cette programmation est sur le site du théâtre www.merlan.org.